Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Forward. Forward. Drift into the right level.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Happy birthday Nicolas, happy birthday. Ah, quand tu as été élu il y a 8 ans déjà, on se disait quelle chance on a d'avoir un président aussi dynamique, aussi bien coiffé, aussi sportif, Henri Bann. Tu nous les as toutes faites pour prouver que tu étais dans le coup, t'as emprunté un yacht à ton copain pour fêter ton couronnement, t'as pris rancard avec Carla avant de devenir jeune papa à la fin de ton mandat. Et avec tout ça, on aurait pu croire que tu avais battu le record de Giscard qui était entré à l'Élysée à 48 ans, mais non. Enfin, tu peux pas gagner à tous les coups, en 83, tu avais déjà raflé le titre du plus jeune maire de France, 28 ans seulement. Pour ceux qui comptent bien, ça fait qu'aujourd'hui tu as 60 ans, Nicolas. 60 ans. Ce qui fait qu'en 2017, tu en auras 62, l'âge de partir à la retraite. Parce que comme tu as toujours un temps d'avance, tu auras compris, plus vite que Juppé, que d'essayer de briguer un mandat de président après 60 ans, ça commence à faire tard. Dommage, pour ceux qui te souhaitaient un autre quinquennat, pour toi, éternel précurseur, il sera temps de quitter la scène.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Qual, l'artiste angevin qui se produisait hier soir et qui remet le couvert ce soir au quai. Vous entendrez également un petit best-of de la semaine dernière au festival Premier Plan. Mais d'abord, parlons sécurité, parlons de la vidéosurveillance à Angers, du déploiement de la police de nuit, parlons prévention et répression.
Deux femmes et un homme de type européen. Type pays de l'Est, crâne rasé, agresse les voyageurs avec des mégots de cigarettes.
L'alerte vient d'une station de métro parisienne. Immédiatement, les agents du PC sécurité de la RATP se branchent sur les caméras de surveillance des lieux de l'agression.
On recherche les individus, on a une description, voir si ces individus sont sur les caméras, mais apparemment, ils ne sont plus dans la station.
Extrait d'un reportage de juillet 2007 signé France 2. Bonsoir Jeanne Robinson-Bert.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe au maire chargée de la sécurité et de la tranquillité publique. Et mi-décembre, le conseil municipal a adopté le dossier concernant le déploiement de la vidéosurveillance et la mise en place d'un service de nuit de la police municipale. Parlons d'abord de la vidéosurveillance. Alors il est question de 100 caméras déployées dans la ville. Où ? Sur quelle zone exactement ?
Alors, pendant la campagne des élections municipales, donc de mars 2014, nous avions effectivement, parmi les projets, fait figurer 10 propositions. Et parmi ces 10 propositions, il y en avait deux, une sur la police la nuit et une sur les caméras. 100 caméras, en fait, c'est une estimation. C'est un budget d'1 million d'euros qui va être déployé. Les priorités sont sur les grandes places, celles qui accueillent du public, sur les grands axes, en deuxième partie. Et puis, en troisième point, sur les lieux dits un peu plus sensibles, sur lesquels il y a de la délinquance.
C'est-à-dire les lieux sensibles ?
On va avoir des îlots ou des lieux sur lesquels on sait qu'il y a des agressions parce que la configuration est plus confinée, un éclairage qui a besoin d'être également augmenté. On connaît des lieux sur lesquels on est plus en insécurité et donc sur lesquels il convient de renforcer la protection et la prévention à l'égard des citoyens, tout simplement pour garantir les libertés d'aller et venir. Ça peut être certaines places à la Roseraie, à Montplaisir, ça varie en centre-ville, ou tout simplement la place du ralliement aujourd'hui, qui est le lieu le plus fréquenté, préféré des Angevins, le plus fréquenté, mais sur lequel aussi il y a des agressions, des vols, etc.
En 2012, l'agence d'urbanisme de la région Angevine publiait un rapport selon lequel Angers enregistrait en 2012 une baisse des atteintes aux biens de 3,5%, et une baisse des atteintes aux personnes de 3,5%. Quel type de délinquance vous comptez cibler avec cette vidéosurveillance ?
Alors, d'abord, on parle de vidéoprotection. Sur l'espace public,
c'est la vidéo.
Non, c'est un peu plus parce que la vidéosurveillance, c'est dans un espace clos. Quand vous êtes dans un magasin et que vous êtes filmé, c'est de la vidéosurveillance, vous êtes surveillé. Là, on protège, c'est tout simplement les termes de la loi, donc c'est pas une question uniquement de sémantique ou de communication. Les chiffres, on peut leur faire dire tout ce que l'on veut, suivant la manière dont ils sont traités et tout. Ce qui ne nous intéresse pas, ce sont les chiffres. Les chiffres, ce sont des éléments sur des actes qui se sont produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prévention et donc les actes pour éviter qu'ils ne se produisent. Et donc, c'est aussi toute cette garantie qui peut être apportée aux citoyens de pouvoir circuler librement dans un espace qui va être protégé parce que filmé. C'est-à-dire que ça permet d'avoir après une intervention de la police si on voit qu'il y a quelque chose qui peut se dérouler.
Angers, classée meilleure ville où il fait bon vivre par l'Express à l'automne. Est-ce que, sincèrement, les Angevins, les administrés, vous ont fait part d'un sentiment d'insécurité ?
C'est compliqué parce que il y a ceux qui s'expriment, ceux qui ne s'expriment pas. Durant la campagne électorale, on a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont fait part effectivement d'inquiétudes, de sentiments. Le problème de l'insécurité, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est d'abord un sentiment. Un sentiment, ça veut dire un ressenti et quelque chose qui n'est pas palpable. Vous n'avez pas de chiffres sur l'insécurité. Vous avez des éléments factuels sur des délits, sur des atteintes aux biens ou aux personnes. Mais plus largement, l'idée, c'est si Angers est une ville où il fait bon vivre, c'est qu'Angers reste une ville où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a ce sentiment qui est plus fort parce qu'on se sent oppressé, pas très à l'aise, etc. Ça peut être la gare, par exemple. Aujourd'hui, la gare est déjà vidéoprotégée. Alors, elle a besoin d'être renforcée. Mais c'est typiquement le genre de lieu où vous avez beaucoup de personnes et que pour que chacun puisse s'y sentir mieux ou s'y sentir bien, eh bien, il convient de renforcer cette protection.
Ces caméras sont donc reliées à un centre de supervision, c'est comme ça qu'on...
Tout à fait.
Voilà. 24 heures sur 24.
Pas forcément, non. On n'est pas sur cette idée-là, est en train d'étudier les choses. Le centre de supervision, c'est un mur d'images sur lesquels les caméras sont reliées et qui permet aux équipes qui sont derrière, qui sont des agents qui sont agréés, assermentés, donc ça veut dire ni vous ni moi, sauf si effectivement on passe la labellisation, et qui permet effectivement, avec un œil un peu aguerri, de se dire tiens là il se passe quelque chose. Et donc là, je vais envoyer des moyens humains en connaissance de cause parce qu'il se passe quelque chose ou parce qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Donc ça demande aussi une compétence particulière pour éviter justement l'agression, par exemple.
Comment on sait qu'il va se passer quelque chose ?
Ah, vous avez des comportements qui parfois peuvent être suspects. Hein. On est allé voir dans d'autres villes ce qu'il se fait. Et en fait, on voit que les choses peuvent aller... ce qui peut paraître parfois aller très vite. Je pense notamment à des images de braquage d'un commerce. On peut estimer que ça va très vite. En fait, on se rend compte que c'est très long. C'est-à-dire que quand vous avez l'image, et très vite, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, avec une voiture qui arrive, bélier par exemple. Et du coup, vous pouvez tout de suite prévenir les forces de police. On a vu des images sur la commune du Havre, par exemple. C'était là où nous sommes allés voir. C'est une ville qui ressemble un peu à Angers. Et c'est assez impressionnant de voir aussi la protection des populations autour, parce que quand vous avez un hold-up comme celui-ci, c'est toute la population autour qui est en danger et qui parfois d'ailleurs ne se rend pas compte du danger. On voit le monsieur à côté avec sa baguette de pain qui est en plus une espèce de sentiment d'attraction, qui a envie de voir ce qui se passe. Donc il y a vraiment aussi cette nécessité de protéger. Donc le CSU, c'est un mur d'images qui permet de voir effectivement ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est pas forcément sur l'idée de mettre 24 heures sur 24. Parce que ça a un coût, parce qu'on est sur l'idée de regarder aussi comment les choses se passent, sur un déploiement progressif, et on sait qu'il y a des heures plus ou moins sensibles. Donc ça fait partie des pistes que nous sommes en train d'étudier.
Alors les heures sensibles, par exemple, c'est quoi les créneaux ?
Alors ça va être notamment les heures aux alentours de 3 heures du matin, après la fermeture des bars, où vous avez des populations très alcoolisées, mais du coup des populations aussi en situation de victimes, ou pour lesquelles, quand vous avez beaucoup bu, et que je pense notamment aux jeunes après des soirées, vous devenez facilement des proies. On a encore eu ça la semaine dernière sur la place du ralliement avec des agressions. C'est également assez tôt le matin, aux alentours de 6 heures le matin. Et puis, à peu près aux alentours de minuit, on a quelques heures comme ça. Ce qui est intéressant dans la ville, moi je le découvre hein, avec ce mandat et cette délégation un peu particulière, c'est que la ville qu'on connaît le jour, c'est une ville et une vie de ville. Et la nuit, la ville vit différemment. Il y a une autre vie, avec d'autres habitudes, d'autres populations, d'autres rites. Et ça nécessite aussi une nouvelle appréhension de la sécurité et puis de la manière dont on organise les choses. C'est aussi pour ça, et ce sera lié avec le deuxième sujet, que la police que nous avons voulu voir travailler la nuit, la police municipale en complément de la police nationale, eh bien c'est une équipe dédiée à la nuit. C'est-à-dire que ce ne sont pas une organisation avec je fais un jour la nuit, un jour le jour. Là, c'est vraiment la même équipe qui travaille toujours la nuit parce que c'est un monde différent.
Que vont devenir les vidéos prises ensuite ?
Alors, la loi est très claire là-dessus et encadre les choses. Les images sont stockées. Et on doit déclarer le nombre de jours durant lesquels elles sont stockées, entre 8 et 15 jours. On n'a pas encore décidé combien de temps on demandait, entre 8 et 10 jours, je pense. Tout simplement parce que si vous prenez 15 jours, c'est très lourd à stocker, donc ça coûte assez cher. 3 jours, par exemple, ce serait trop juste, parce que imaginons que vous fassiez agresser, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr.
Merci.
Le temps que vous alliez à l'hôpital, que vous reveniez, que vous alliez déposer plainte, il peut se passer facilement 5 ou 6 jours. Donc 8 jours, 10 jours, pareil, c'est des choses plutôt équilibrées.
Vous avez cité tout à l'heure, Jeanne Robinson-Bert, le chiffre de 1 million d'euros pour la vidéosurveillance. Selon Vincent Dulon, conseiller régional Europe Écologie Les Verts, je cite, la ville a adressé une demande de subvention à la région pour le compte d'Angers-Loire Métropole pour un investissement d'un million d'euros afin de mettre en place la vidéosurveillance, il dit sur une vidéosurveillance, dans 26 groupes de résidences du bailleur social. Ça voudrait dire des caméras dans les HLM d'Angers?
Alors, je ne sais pas ce que Vincent Dulon a déclaré. La situation est un petit peu différente. En fait, aujourd'hui, nous avons déjà des caméras sur la ville. Il y a des caméras dans le réseau de transport avec Irigo, qui a presque 500 ou 600 caméras sur le tram, dans les bus, etc. Et puis les bailleurs sociaux qui ont aussi développé leur système de vidéo, notamment aux entrées de leurs immeubles, sur un certain nombre de bas d'immeubles. Ils ont, eux, un plan, effectivement, qui est subventionné par le conseil régional, effectivement. Et c'est Angers-Loire Habitat qui a demandé cette subvention. Donc chaque bailleur social, en fait, a son plan de développement dans toutes les villes. Donc ce sont plutôt des réseaux qui ont vocation à être complémentaires. Moi, j'ai indiqué aux bailleurs sociaux que je souhaitais qu'on puisse travailler ensemble de manière à ne pas avoir de doublons, c'est de l'argent public, et que l'on puisse avoir des choses qui soient complémentaires. Voilà.
D'accord, donc la ville n'a pas demandé expressément à ce que
non,
des caméras...
Non, c'est Angers-Loire Habitat, c'est-à-dire ce sont les décisions des bailleurs, et c'était même fait avant notre arrivée aux responsabilités, donc à l'époque où M. Dulon faisait partie de la majorité.
En termes de consommation d'énergie, Jeanne Robinson-Bert, qu'est-ce qui va se passer avec ces caméras de vidéoprotection à l'heure où les magasins doivent éteindre leurs vitrines la nuit? Ça ne pose pas question d'installer 100 caméras de vidéosurveillance.
C'est-à-dire ?
En termes de consommation d'énergie ?
Oh non, ce n'est pas des caméras qui consomment énormément. On n'est pas sur de la consommation. On est plutôt sur de la haute définition. Donc, au même titre qu'aujourd'hui, les nouvelles télés à haute définition ne consomment pas énormément. Ce n'est pas un argument.
Ce n'est pas un argument, c'est une question.
Oui. Non, mais je veux dire, ce n'est pas un argument important sur la consommation d'énergie. On n'est pas sur quelque chose d'énergivore. Voilà. On doit être dans des moyennes tout à fait. Non, ce n'est pas des choses. Ça nécessite. Ne nécessite pas en tout cas de renforcement des réseaux, si c'est votre question.
Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui se sont manifestés juste avant ce conseil municipal de décembre, hein, qui criaient, je vais peut-être caricaturer, mais à Big Brother?
Moi, je peux l'entendre. D'abord parce que ça interroge, effectivement, et je crois que le débat est sain. Et qu'à un moment où, effectivement, la collectivité investit une somme importante, moi, je suis juriste, ça fait partie des questions sur lesquelles j'ai eu l'occasion de réfléchir au cours de mes études, en termes de liberté publique notamment, et de savoir être surveillé était finalement une atteinte à la liberté. On est dans une société d'équilibre, et la liberté d'aller et venir aujourd'hui est parfois entravée parce que la sécurité n'est pas assurée. Aujourd'hui, on a donc deux libertés à mettre en corrélation, le droit à la sécurité, le droit à la sûreté, qui est garanti par les droits de l'homme et des citoyens, et puis cette liberté d'aller et venir également à consolider. Donc on est plutôt dans une situation d'équilibre. Moi, ce que j'entends aussi, ce sont les habitants qui me disent de manière assez forte que lorsque l'on n'a rien à se reprocher, on avait plutôt le sentiment, et là aussi on parle de sentiment, d'être protégé par ces caméras. Donc je retiens plutôt cet argument-là. Nous ne sommes pas sur l'idée de déployer 8 à 900 caméras, comme ça peut être le cas dans d'autres communes, vraiment pas. Les axes, les places sont en cours d'identification, c'est un travail qui est actuellement en cours avec les services, avec la préfecture, avec la police et avec les élus. Également avec dans les quartiers. Donc on est sur des éléments, il n'y a rien à cacher, voilà, il n'y a pas de loup et tout est transparent. Les caméras se verront et il n'y a pas de loup. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de, je crois vraiment d'équilibré. À l'échelle de la ville d'Angers, on verra dans le cadre du plan de déploiement combien de caméras nous seront, mais l'idée n'est vraiment pas de fliquer tout le monde comme j'ai pu lire. c'est pas notre philosophie, c'est pas la mienne. Et si je ne m'étais pas sentie à l'aise, je suis plutôt quelqu'un de modéré, si je ne m'étais pas sentie à l'aise avec ça, quand le maire m'a évoqué ces questions-là dans le cadre du programme, je n'aurais pas accepté. Voilà.
On va poursuivre cette discussion, Jeanne Robinson-Bert, juste après Milan avec Shout Out My Name. Ce soir dans le sous-marin, nous recevons Jeanne Robinson-Bert, adjointe au maire chargée de la sécurité et de la tranquillité publique. Alors on a beaucoup parlé de la vidéoprotection. Un autre point qui a été adopté lors du conseil municipal de décembre, c'était le déploiement d'un service de nuit de la police municipale. Concrètement, ça consiste en quoi? Combien de personnes? Où et pourquoi?
Alors, on peut mettre tous les moyens techniques que l'on veut. Si en complément, il n'y a pas de moyens humains, ça n'a que peu d'intérêt. Et pour autant, les moyens humains, les déployer de manière démesurée, exponentielle, on n'en a pas les moyens. Donc, d'où la nécessité d'avoir aussi cet appui technique. Donc, il y a bien une complémentarité entre les deux. Aujourd'hui, la police municipale, ce sont 53 agents sur la ville. Et l'engagement que nous avions pris, c'était de déployer une équipe la nuit. Donc aujourd'hui, les policiers qui sont consacrés au service de nuit sont présents le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, jusqu'à 4 heures du matin. C'est une mesure expérimentale et ça fait partie de la concertation que nous avons eue avec les agents. Ils avaient des propositions à faire et on a essayé de trouver un terrain d'entente, notamment sur les horaires. Voilà, ils ont commencé le 6 janvier et c'est une équipe de 7 personnes, 6 coéquipiers et un chef d'équipe qui est aussi sur le terrain. Et ce sont toujours les mêmes agents qui sont sur le terrain tous les soirs.
Et qui ciblent quel genre de population? Leur mission, ils sont sur quel secteur
et... Alors, leur mission est avant tout une mission de tranquillité publique, de prévention. C'est-à-dire que, en complémentarité avec la police nationale avec laquelle nous avons une convention, nous rappelons que nous n'avons pas les mêmes missions. La mission de la police municipale, c'est d'abord une mission de tranquillité publique, c'est-à-dire les tapages, le bruit, les incivilités, principalement dans le centre-ville. Voilà, c'est la vie nocturne hein, et tous les débordements que ça peut causer. L'idée, c'est qu'Angers doit être une ville vivante, une ville jeune, une ville dynamique et sur lesquelles le centre et les bars, les boîtes de nuit puissent vivre et développer une activité intéressante, mais que pour autant, que les riverains puissent aussi dormir s'ils le souhaitent. Voilà, donc que tout le monde trouve sa place dans la ville. Donc il y a cette nécessité de rappeler un peu les règles. Donc c'est la question des tapages et puis en cas de besoin, ils vont aussi sur les autres quartiers. Voilà. Aujourd'hui, leur activité, puisqu'on a un petit peu de recul, hein, ils ont ça déjà maintenant depuis 3 ou 4 semaines, beaucoup de tapage, beaucoup de débordements le soir avec beaucoup d'alcoolisation. Donc, ce qui permettra, mais je crois que vous allez l'aborder dans une prochaine émission, le retour des noxambules sur l'aspect prévention. Donc, on est aussi sur cet élément de protection des populations et c'est vraiment ce sur quoi ils ont ciblé leur action.
Vous me faites une transition, merci beaucoup Jeanne Robinson-Bert. Avec les noxambules, vous avez parlé de prévention, de tranquillité publique. Le service des noxambules, c'est bien ça, un service de prévention auprès des étudiants majoritairement pour prévenir les conduites à risque auprès des jeunes le soir. Initialement, il y avait des professionnels de l'association Avenir Santé dans les noxambules qui chapeautaient d'autres noxambules qui étaient souvent des étudiants embauchés à temps partiel. Aujourd'hui, il me semble que c'est une organisation qui va être interne, plus interne à la ville, oui. Avec 25% d'économie, soit 180 000 euros sur 6 ans. Pourquoi avoir fait ce choix d'économie sur les noxambules alors que, vous le dites vous-même, il y a effectivement besoin peut-être de prévention?
Alors, on n'a pas fait de choix d'économie sur les noxambules.
Il n'y a pas ces 25% d'économie.
Alors, je vais vous expliquer. Lorsque nous sommes, le rôle des élus, c'est de faire des choix et d'assumer ces choix. Donc, les choix, nous les assumons. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités au mois de mars, on a une période un peu étrange hein, lorsque vous arrivez dans une ville sur des dossiers que vous ne connaissez pas forcément, sur lesquels on vous demande d'ailleurs de prendre beaucoup de décisions très vite, trop vite aussi parfois. Et nous avons souhaité marquer un temps d'arrêt pour regarder et analyser un certain nombre de choses. On a été élus pour faire des choix, pour faire peut-être des choix aussi différents de ce qui se faisait avant. Sinon, je pense que les Angevins auraient renouvelé leur confiance à l'équipe précédente. Donc l'idée n'était pas forcément de reconduire aveuglément tout ce qui se faisait avant, ni de mettre à la poubelle tout ce qui se faisait. Mais au contraire, d'évaluer, de regarder. Sur les noxambules, sur le fond, aucune remarque, le dispositif est intéressant, on n'est pas les seules villes à le faire, alors ça s'appelle différemment sur les autres villes, mais l'idée d'être présent sur le terrain, un accompagnement de prévention par les pairs, c'est-à-dire des jeunes, pour les jeunes, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, d'important, en complément de la police la nuit. En tout cas, moi j'y suis tout à fait favorable, et notamment sur la responsabilité de vie nocturne qui est aussi la mienne dans ma délégation. La seule chose que nous avons vue, c'est que le nombre d'heures d'intervention restait à peu près le même, mais que le budget était exponentiel et avait quasiment doublé en 5 ou 6 ans. Et des subventions qui au début étaient là et qui n'étaient plus là de la part d'organismes annexes. Effectivement, il y avait beaucoup de frais de gestion. On rentre un peu dans la technique, mais je vous dis les choses. Hein. Il y avait beaucoup de frais de gestion sur les différents intervenants. Et puis, la ville payait beaucoup, mais on ne savait pas non plus que c'était la ville. Et je crois que c'est important aussi que ce qui est payé par le contribuable, par l'argent public, que les Angevins sachent à quoi sert leur argent. Alors je ne dis pas qu'on doit faire des grandes campagnes de com', je ne suis pas du tout sur ça. Mais l'idée, c'était aussi d'expliquer et d'avoir une continuité dans l'action, notamment sur la question de la sécurité publique et la santé publique, parce que c'est aussi ça les noxambules, c'est surtout ça les noxambules. Et donc l'idée, c'était, un, d'éviter effectivement des petits contrats étudiants, comme vous aviez, mais d'offrir une palette de contrats plus importante pour stabiliser aussi les effectifs, et puis de ne pas multiplier les intervenants et donc les frais de gestion pour être tout à fait clair, mais d'avoir des équipes du coup embauchées par la ville. Vous voyez, donc on n'est pas du tout. Et ce qui permet aujourd'hui, pour un budget, je crois qu'on était à 135 000 euros effectivement sur l'année dernière. Là, on doit être à 75 000 euros avec un chef de service et puis une amplitude adaptée. Et plus d'heures de présence sur le terrain. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que contribuable et en tant qu'élu, c'est quels services aux Angevins. Aujourd'hui, pour moins cher, on a plus de présence, une présence plus adaptée, c'est-à-dire pas à partir de 19h, mais à partir de 21h. une présence adaptée, et puis des collaborateurs, en tout cas des personnes sur le terrain, avec une cohésion d'équipe et encadrées par la ville. Voilà.
Dernière question, Jeanne Robinson-Baird. Vous avez récemment déclaré à France 3 « Angers n'est pas Chicago, mais on ne veut pas qu'Angers devienne Chicago ». Or voilà, dans le même temps que votre annonce concernant le déploiement de la vidéoprotection, on apprenait que le Conseil Général, présidé par Christian Gillet, allait baisser de moitié le budget de l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, consacrée, la partie du budget consacrée aux éducateurs de rue. Ça représentait alors 1 million d'euros. Le fait est que la baisse a été revue et que finalement c'est plus que 500 000 euros. Pour autant, est-ce que c'est pas ici qu'il faudrait faire un effort budgétaire sur la prévention auprès des éducateurs de rue, auprès des jeunes de rue, dans les quartiers, plutôt que que d'investir de l'argent dans la vidéoprotection ?
Alors, moi j'aime pas qu'on oppose les choses comme ça, parce que rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Voilà, je suis centriste, ça se voit peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est la manière dont je vois les choses. D'abord sur le Conseil Général, il y a beaucoup de conseils généraux qui se sont retirés de ces politiques-là, tout simplement parce qu'on n'est pas directement dans le cœur de compétences des collectivités. Moi je crois que tout le monde ne peut pas tout faire, et que les conseils généraux aujourd'hui n'ont plus les moyens d'avoir un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, il y a d'autres actions que le Conseil Général n'a plus les moyens de financer, tout simplement parce qu'il est étranglé financièrement. Et donc, il faut faire des choix. Je crois que, et pour avoir échangé avec les élus du Conseil Général, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils le font, mais c'est se recentrer sur ce pourquoi ils sont là, et notamment les prestations sociales, puisqu'aujourd'hui, la voirie, c'est ce qui prend une grande partie du budget du Conseil Général. Pour autant, la discussion que nous avons eue avec Christian Gillet et Gérard Delaunay, notamment, qui s'occupe de ce dossier-là au Conseil Général, a été une discussion tout à fait franche. Et en ce qui concerne la ville d'Angers, je ne parlerai pas pour Cholet, Trélazé et Saumur, parce qu'ils sont aussi dans le dispositif. C'était de se dire, il y a une nécessité, c'est une action importante, comment est-ce que finalement on arrive à maintenir ces actions? Donc aujourd'hui, on est en train de trouver techniquement comment on va continuer le dispositif des éducateurs de rue. On va effectivement nous prendre le relais financier sur une partie, hein, c'est ce qui a été annoncé. De la même manière, on aura la question aussi des correspondants de nuit, qui est un dispositif financé avec les bailleurs sociaux. Le Conseil Général va aussi revoir à la baisse sa participation. Moi, je crois que c'est l'occasion de se reposer la question de l'occupation du domaine public, effectivement de l'accompagnement qu'il peut y avoir des jeunes, particulièrement dans les quartiers sur le domaine public, et de se poser la question de où, dans quel quartier, comment, quel accompagnement et quel suivi on a aussi. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on a ajouté un certain nombre de dispositifs sans toujours se poser la question de la cohérence. Et nous, on a ajouté en plus la police municipale la nuit. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler et accompagner les jeunes, puisque derrière, c'est aussi pour ça. Moi, je ne suis pas juste là pour reproduire des dispositifs, mais avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Moi, je crois au travail des éducateurs de rue. Je leur ai dit, je travaille beaucoup avec eux. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin sur certains sujets avec eux. Je crois qu'il faut également qu'avec les correspondants de nuit, on travaille un peu différemment. Donc ça fait partie des choses qu'on met sur la table en ce début d'année pour se donner aussi des perspectives et garantir la pérennité du dispositif. Donc nous n'abandonnons pas, nous prenons le relais, mais en reformulant. Et je crois que finalement c'est assez responsable et c'est un dialogue responsable que nous avons avec eux et avec les autres collectivités.
Merci beaucoup Jeanne Robinson-Baird d'avoir été avec nous ce soir.
I saw a flying cat talking to a ponytail. I shot a mountaintop walking on my own legs. I massaged my masseuse massaging this mess. I kissed my white van. White gets jealous. Mom, take care of me.
C'était High Fever de Peter Kemmel.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La semaine passée, nous étions au festival Premier Plan. Vous aussi, peut-être, sans doute. Au programme, des chroniques un peu barrées, on a parlé de musique de film, on a parlé de critiques de cinéma, de VOD. On a reçu de jeunes réalisateurs au micro, mais aussi Bertrand Blier, Laurent Cantet, Irgi Barta. Sur Radio Campus Angers, il y a eu une galette partie spéciale musique de film, un pas de panique et un Johnny Clashot spécial 7e art. Et là, je vous sens un peu nostalgique ou honteux de ne pas avoir tendu l'oreille. Alors, Clément a concocté pour vous ce petit best of the best.
Le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan.
C'est une tour sans gamme et sans arpèges.
Bonjour Bertrand Blier.
Bonjour.
Vous venez de partager là tout juste un temps d'échange avec Gérard Depardieu.
Oui.
Quel rôle vous diriez avoir joué dans sa carrière ?
Oh, déterminant, forcément. Parce que lui confier ce rôle dans Les Valseuses, c'était pour un acteur, c'est une chance inouïe qui ne se représente jamais.
Il vous remercie encore aujourd'hui ?
Non, il ne remercie pas, mais il le sait.
Il était une fois en Amérique. On connaît bien la patte de Morricone grâce au cœur, hein, quand même.
Il était une fois
la révolution.
Pardon, révolution.
Il était une fois la révolution.
Mais il existe aussi en Amérique, tout effectivement. Donc autant là, oui, ce qu'on disait... immense chef d'orchestre, de musique de film, enfin, on ne pouvait pas ne pas parler de lui.
On ne peut pas trop faire autrement. Non.
Voilà, on ne peut pas faire l'impasse, et puis ce qu'on disait, bon alors, pour les petits vénards, à mon avis, ça doit être déjà complet, et donc Ennio Morricone fait une tournée mondiale en ce moment, où il est chef d'orchestre, je crois que c'est avec un orchestre philharmonique.
Bonjour Aurélien Ferenzi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste cinéma à Télérama.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous pondre comme ça une phrase accrocheuse, ou une catchphrase je crois dans le milieu, qui pourrait finir en bas de l'affiche du festival, vous savez, comme on voit dans le métro, du genre, je sais pas, corrosif, percutant, ambidextre.
Il y aura un truc avec fontaine de jouvence, avec bain de foule, avec énergie communicative, avec... avec plaisir du partage, avec plein de trucs, mais vous mettrez ça en mots beaucoup mieux que moi, je crois.
Commençons donc ce pas de panique spécial Premier Plan avec un test de The Movie. Donc bienvenue dans The Movie. Alors qu'est-ce que c'est précisément The Movie ? C'est un jeu de gestion simulation qui vous met à la place d'un producteur de cinéma. Alors pour les infos techniques, il est sorti en 2005 et il est produit par Lionhead, donc... un studio bien connu pour avoir fait des jeux...
assez cultes.
Qui sortent de l'ordinaire, surtout, j'aurais dit.
D'accord, bah, chacun sa vision du truc, de la chose.
T'as des exemples ?
Ouais, t'as des exemples, parce que je connais pas du tout.
Ah bah, Lionhead, c'est ceux qui ont fait Fable, c'est ceux qui ont fait Black and White.
Ah oui.
Bah, en fait, c'est, à tête de Lionhead, c'est Peter Moulineux, qui est connu pour faire des jeux un peu étranges.
Scene 1, Apple, take 1.
Quand on pense à Blier, on pense d'abord à sa musique, à lui, celle de ses dialogues et de sa langue. Si vous deviez rapprocher les dialogues de Blier, la langue de Blier, un genre musical, ce serait lequel ?
Je sais pas, en fait, ce serait pas, il n'y a pas de langage musical, je pense, qui corresponde pile à la langue de Blier. Ce serait, parce que la langue de Blier, c'est le mélange de plein de choses, des choses vraiment avec une beauté, un lyrisme, une poésie qui se mélange avec de l'argot, des choses très imagées, parfois vraiment très, très, très trash. Ce serait, c'est comme si vous mélangez, je sais pas, de la musique baroque avec du métal, quoi, en quelque sorte.
Ici Johnny Clash, et comme je vous l'expliquais, on s'intéresse ce soir à la carrière cinématographique de Neil Young. Oui, il n'a pas le droit à une rétrospective au festival Premier Plan, mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. Et on arrive en 1982, où Neil décide de ressortir un film avec sa boîte de prod Cheeky Pictures. Une comédie cette fois, mais qui fera pas rire grand monde, parce que Human Highway, c'est aussi un sacré ovni. Déjà, on y retrouve la bande de tarés du groupe Devo, avec leurs masques d'enfants qui font flipper. Et puis parce qu'en fait, ce film nous raconte l'apocalypse, le dernier jour sur Terre d'une petite ville imaginaire que David Lynch aurait pas renié.
Scene 1, Apple, take 1.
Je suis très content qu'on commence par la rétrospective Bertrand Blier, car c'est mon cinéaste favori.
Ah bon, c'est votre cinéaste favori, Bertrand Blier ?
Ouais, enfin, j'aime bien Bertrand Blier, quoi.
Bah, faut savoir, vous aimez bien ou c'est votre cinéaste favori ?
Mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est le cinéaste gaulois par excellence. Il a toute la panoplie du bon rablaisien. Le goût de la bonne chair, accent grave, et de la bonne chair ailleurs. le goût du bon mot, la misogynie poétique et l'irrévérence absolue. Aller voir un film de Blier, c'est un peu comme écouter une chanson de Brassens, avec tout ce que ça peut contenir aussi d'érudition et d'absurdité.
Allez, bisous.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Qual était hier soir et est ce soir au Quai. L'artiste angevin a accordé cet après-midi un petit entretien avec Thomas.
Bonsoir Vincent Loiseau, tu étais au Quai cette semaine sous le nom de Qual. C'est un pseudonyme qui résume ton projet musical actuel qui est à mi-chemin entre slam, spoken word et puis hip-hop ou encore conte. Alors, les représentations que tu as données s'appelaient les Chroniques du bout du monde. Il s'agit du second volet d'une trilogie commencée avec les chroniques de Là où j'habite. Ton slam, actuellement, il était orchestré par une série de musiciens. Donc, il y avait des cordes, il y avait également un DJ sur scène à une époque. Est-ce que la formule change dans le cadre du triptyque que tu donnes, donc avec ces différentes chroniques, puisque c'est un spectacle à la fois théâtre, conte et slam?
On a deux répertoires. C'est les mêmes musiciens qui sont là sur le projet musical. On est vraiment sur des morceaux, des formats de chansons, des morceaux de 3 à 5 minutes. Et là, ce qu'on fait sur scène, c'est un spectacle compté avec des éléments slamés dedans. Mais on est plus sur du théâtre, quoi. Voilà. Donc il y a des passages musicaux et des passages slamés. Mais il y a quand même un contenu qui est très différent en fait de ce qu'on propose dans les albums. Donc on a les deux répertoires qu'on défend avec les mêmes musiciens ensemble sur scène. Voilà.
Dans le cadre de ces deux passages au Quai, vous étiez également en résidence au Quai. Comment ça se passe ces conditions? C'est un moment qui vous plaît en général, les résidences? C'est un moment de pression ou un moment de plaisir au contraire?
Les résidences, c'est un moment c'est complètement magique parce que en fait, sur les temps de résidence, là, il y a eu des metteurs en scène qui sont passés tout le long. On bossait la lumière. Et pour moi, c'est une grande excitation, quoi. Je me levais le matin des semaines de résidence. Et quand je me couchais le soir, j'avais l'impression d'avoir fait mon métier pendant 20 heures de la journée. Et j'étais heureux, quoi. Je sais pas comment dire ça. C'était vraiment là-dedans. Tu es complètement dans l'effervescence de ça, tu vois. C'est très excitant comme moment, très agréable. T'as l'impression de progresser tous les jours, d'en apprendre plein, tu vois. Tu bosses à la fois ta mise en scène et puis ton rapport à la salle, ta direction d'acteur, c'est comment que tu te places dans tel personnage, tout ça. Non, c'est... Moi, j'aime ce métier profondément. Et le faire comme ça, avec des conditions comme ça, c'est clair,
et puis le faire également accompagné, puisque tu n'es pas seul sur scène. Ouais. C'est pas que ton aboutissement personnel, au final, ce spectacle. Qui compose à tes côtés, qui t'accompagne dans ce projet?
Mais les trois instrumentistes qui sont là, Anne-Laure au piano percu, Héloïse au violon, Hervé à la basse, Nico, enfin, et puis Nico au son et Steph au light. Et on se connaît depuis très longtemps, pour la plupart. On a bossé ensemble sur plein de projets, donc c'est des gens de confiance, quoi, tu vois. Donc il y a quelque chose de très collectif là-dedans, quoi. C'est une alchimie de... Enfin, ce qui fait un projet qui trouve son public, comme je crois que ce qui se passe autour des chroniques des bouts du monde, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Il y a toute cette espèce d'alchimie qui se passe sur scène et en dehors, c'est-à-dire au son, lumière. Donc au moment de la compo, tout ça, tout ce qui s'est fait, ce qui se fait sur les chroniques des bouts du monde, c'est cette réflexion commune là, de comment on va trouver de la musique pour habiller le texte, pour mettre en valeur le texte, tu vois, voilà. Donc tout ça, c'est de la compo ensemble.
Il y a également l'importance des textes, dans lesquels il y a beaucoup de poésie, de tendresse, et ça, c'est depuis ton premier album, Règlement de compte. Quelles sont les expériences qui te touchent le plus et te donnent envie d'écrire, en l'occurrence, dans le cadre de ce projet, Qual?
Oui, il y a plein de choses qui me donnent envie d'écrire, donc le voyage, mais plus généralement le mouvement même. C'est-à-dire, prendre un train, moi déjà, ça suffit à me déclencher l'envie d'écrire, quoi, tu vois. Dès que tu brasses un peu des visages, des décors qui sont un peu, tu vois, qui changent. Dès que t'es dans le mouvement, voilà, moi j'ai envie d'écrire. Après, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, donc j'ai la chance de pouvoir approcher des gens sous un angle très sensible. Parce que les gens, quand ils écrivent, ils se livrent. Donc moi, du coup, en atelier, j'ai de la chance de brasser de l'humain, tu vois, dans ce qu'il a de profond, quoi. Voilà, il y a ça. Donc ça aussi, c'est une source d'inspiration. Puis il y a plein de choses, mais je pense, j'ai l'impression, finalement, que ce soit dans le mouvement ou là, les gens que je vais rencontrer, c'est toujours de la rencontre directe. C'est rarement ce que je vois à la télé, tu vois, qui m'inspire, quoi. Ou, voilà, c'est souvent le plus direct possible, quoi.
C'est quoi la troisième étape de cette trilogie de chroniques, après les chroniques de Là où j'habite et les chroniques du bout du monde ?
Les chroniques intérieures, c'est... Je vais revenir sur des souvenirs, des choses très personnelles, en fait. Ça va être... je suis parti au bout du monde, et puis je reviens à causer de sentiments, de tout. Je vais aller vraiment mettre les tripes sur la table, voilà. Sur des choses très personnelles, où on touchera vraiment la notion des deuils, les ruptures sentimentales. Enfin, je sais pas comment dire tout ça. En gros, le fond du spectacle, ce sera la fin de l'enfance, la perte des illusions, avec un tas de voilà, enfin, c'est... Et puis ça concernera aussi ce passage des 30-40 ans, là, tu vois. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là. Voilà, je l'écris depuis... J'ai commencé à écrire ça depuis très longtemps, en même temps que les chroniques des bouts du monde, si tu veux. Quand une idée venait, et je la mets, tu vois, c'est comme si elle tombait dans... Il y avait trois petits containers pour la recevoir. J'en ai un, puisque c'est l'album. L'autre, c'est les chroniques des bouts du monde, et l'autre, c'est les chroniques intérieures. Donc finalement, quand dans 2 ans, il y aura les chroniques intérieures, le spectacle, il sera préécrit depuis très très longtemps. Et c'est... Je crois que c'est comme ça que j'arrive à pas mal fonctionner. Si tu as une idée, tu la trouves, tu la poses et après tu la remâches, tu lui donnes forme. Il faut du temps, enfin en tout cas moi, il me faut du temps pour qu'une idée mûrisse.
Et tu n'as pas peur que dans le cadre de cette troisième chronique, ça touche peut-être un peu moins le public, vu que ce seront des choses plus personnelles ?
Ouais, je pense que ça touchera plus le public, et je pense que ça touchera très fort le public. C'est prétentieux de dire ça peut-être, mais c'est chaque chronique que je vais toucher, c'est justement, enfin comment dire, même quand je raconte les histoires du bout du monde, quelque part on s'en fout de mon expérience personnelle. Ce qui nous intéresse, c'est en quoi quelque chose est universalisable, tu vois. Voilà, une rencontre au bout du monde, c'est pas, je cherche pas à raconter mes souvenirs de vacances, je cherche à raconter quelque chose qui m'a plu et qui, je crois, pourrait toucher des gens. Parce qu'il y a quelque chose, mais c'est ce qu'en chanson, c'est la même chose. Si tu veux, des fois, tu trouves des sujets, ils parlent pas aux gens. Alors, ce qui est bien dans le fait de trouver des idées pas mal à l'avance, c'est que quand t'as plein d'idées, tu peux choisir entre deux idées, voir vraiment celles qui résonnent chez les gens. D'ailleurs, c'est pas toujours là où tu pensais. Mais dans les spectacles, en général, quand je fais le spectacle d'une heure et quart, j'écris 2 heures peut-être, tu vois. Et finalement, il y a un tri qui se fait dans les idées, et puis tout de suite, je vois celles qui accrochent vraiment les gens. Voilà, et donc les chroniques intérieures, je serais vraiment tellement... Tu sais, quand tu parles des sentiments amoureux ou des deuils, chaque personne qui est dans ton public va se sentir concernée. Le voyage, il faut les embarquer. Quand tu parles de voyage, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Faut les amener à rendre ces personnages de voyage aussi proches que... Tu vois, faut ramener le voyage vers eux, quoi. Il y a ce petit défi-là. Mais quand tu parles de des choses que je vois dans tous les ateliers d'écriture, tu vois, l'humain très profondément, ça.
Alors tes premiers pas dans l'écriture et dans le hip-hop, on pourrait dire ça, se sont faits via un groupe de metal fusion qui s'appelait Carcarias, c'est ouais. Ça. Est-ce que tu suis toujours l'actualité de ce style de musique ?
Non, pas du tout. Je me ferais bien le Hellfest quand même. J'ai quand même, enfin tu vois, ça fait partie de ma culture, quoi, mon identité musicale. De temps en temps, j'aime bien mettre un bon gros morceau de métal. C'est toujours une musique qui me parle aux tripes, quoi. J'adore ça, quoi. J'en écoute beaucoup moins, voilà, j'ai moins l'occasion, mais de temps en temps, j'en mets. Et je suis pas l'actualité, par contre, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, l'occasion de découvrir des albums, j'étais assez branché trash, quoi. Vraiment trash, les trucs... Killing Culture, les Soulfly, tous les Sepultura et tout, moi j'étais gros fan de ça. Et du coup, ouais, tu vois, à l'occasion, découvrir des choses, ouais, carrément. Mais je suis moins curieux qu'à une époque de ça, et c'est-à-dire, moi, ça correspondait vraiment à une émotion qui était la colère, quoi, tu vois, que je voulais exprimer en chanson, et qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé, quand je faisais du métal, je me suis retrouvé à avoir envie de sortir de ça, à avoir envie d'exprimer beaucoup plus de nuances dans ce que je voulais dire, quoi. Voilà.
Ce pseudonyme Qual, tu l'utilisais déjà dans ce projet Metal, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que tu as voulu le conserver? Est-ce que c'était pour une façon de ne pas tourner le dos aux gens qui te suivaient à l'époque, peut-être?
Ouais, enfin, disons que, tu sais, moi, là, maintenant, bon, si je devais en trouver un maintenant, j'en choisirais peut-être un autre, tu vois, il est... Mais en fait, ouais, il m'a, tu sais, tu me suis fait comme ça, ce nom, avec ce nom-là. Oui, c'est faux. Ouais, je crois que maintenant, j'utilise les deux, Vincent Loiseau, Qual, tu vois, voilà. Mais c'était mon nom, voilà, de scène, tout ça, sous lequel j'ai sorti bah, des choses qui ont trouvé leur public. Donc, au bout d'un moment, quand tu changes de nom, tu sais, tu repars un peu à zéro. Voilà, bon, c'est, je me suis fait, hein, tu vois, c'est comme ça, quoi.
Alors, Carcarias, ça allie à la fois metal et hip-hop. Aujourd'hui, Qual en solo, ça allie plutôt slam et musique acoustique. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on mélange les styles, ces cultures quel effet ça procure?
Le défi, pour moi, quand j'ai... Alors, je parle de la partie vraiment musicale de ce que je fais. Le défi, pour moi, souvent, c'est de mélanger des choses qui se mélangent pas spécialement, ou tu vois, qui... Je construis mes morceaux comme la superposition de toujours deux univers différents. Par exemple, dans les prochains morceaux, prochain album, c'est des grosses basses bien électro avec un petit violon très aérien dessus. Tu sais, d'aller dans les contrastes, tu vois, d'aller... Voilà, je pense que j'ai envie d'aller marier deux couleurs. Tu vas les mélanger sur un son. C'est un peu comme ça que je vois la chose.
Et à l'issue de ces spectacles, tu en tires quelle conclusion? T'as envie de retourner de nouveau ou d'enregistrer quelque chose? Tu disais que tu prépares un nouvel album. C'est quoi les projets actuellement?
On a déjà la moitié de l'album qui est faite, donc un EP, et on est en train de composer la deuxième moitié d'un album qui sera très, moi, spoken word, enfin très slam, quoi, tu vois, ouais, slam. Voilà, dans cet esprit parler, chanter, avec l'équipe de musiciens qui me suit qui est avec moi sur scène, sur les chroniques et sur les lives musicaux, quoi.
Là où j'habite, c'est pas grand et pas bien luxueux, mais j'aime bien. C'est des apparts et au milieu, il y a une cour toute petite. Là où j'habite, les voisins sont jamais loin. Tous les jours, on se fait bonjour et dans son coin, chacun s'agite. C'est sympa là où j'habite, bien côté cosmopolite. Un petit parfum d'Afrique parce que parmi mes voisins, il y a une famille de Guinéens. Chaque fois que je les croise, c'est magique. Ils parlent français et malinqués dans leur beau boubou en bassin. La France d'en haut balance des phrases sur des bruits et des odeurs. Moi, je vois ces gens polis, travailleurs, presque toujours de bonne humeur. Le père a l'air de bosser dur et tard. Et le soir, ses enfants s'amusent dans la cour ou sur le trottoir. Ils ont des jeux de gamins et quand ils crient un peu trop fort, il y a la maman jamais très loin derrière. Elle leur fait signe de se taire. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, y'a le voisin du numéro 3. Alors lui c'est un cas, emmerdeur comme pas deux et 100% gaulois. Il est debout bien avant le soleil, il voudrait qu'on fasse tous pareil. Du coup dès qu'il se réveille, il fonce dans la cour sans prendre à nos oreilles. Allez debout les sales nègres, je vous emmerde bande de feignants. Et il frappe sur leur porte et il les insulte allègrement. Et personne dit rien, et moi non plus, forcément. Parce qu'il est méchant, ça c'est sûr, c'est un cauchemar pour le voisinage. Mais si tout le monde le ménage, c'est qu'il a une maladie des méninges. J'en pourrais cogner dessus, ça le rendrait pas plus sage. Mais lui, pour qu'il le vire, il faudrait qu'il tue quelqu'un. Et quand je l'entends gueuler, des fois je me dis qu'il va pas tarder à y venir. Mais les négros, comme il dit, entre chez eux et chez lui, le mur il est épais comme du papier. Et lui, il a des insomnies, alors même la nuit c'est une teigne. Et eux, ils subissent tout le temps ces conneries, et jamais ils se plaignent. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste. Là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite, c'est petit, mais c'est pas ça le pire. Un jour gêné, le père Guinéen vient me voir avec un papier à me faire remplir. Sinon lui et sa famille, ils allaient devoir partir. Ben ouais, des papiers, ils en avaient pas assez pour rester en France et on les menaçait d'être expulsés. Ils avaient reçu un courrier de monsieur le ministre de l'Intérieur signé Nicolas en personne. Et Nicolas, dans son paplard, il emploie un ton autoritaire à faire peur. Et moi je me demande plus si ce gars-là a des rêves de dictateur. Nicolas, c'est aux voisins qu'il demandait d'attester que les Guinéens étaient intégrés et qu'ils méritaient de rester. Moi, ça m'a fait penser au passé. À une autre époque, on avait demandé aux voisins de dénoncer. Ça avait fini avec des étoiles jaunes, mais c'est comme ça que ça avait commencé. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite,
voisins sont partis. Je les ai jamais revus, on les a ramenés en Guinée. Parce que de toute façon, les papiers à faire signer, c'était pour les recenser, pas pour qu'ils puissent rester. Mais le gars du numéro 3 est encore là. Il a plus de nègres à insulter, mais lui, on peut pas le virer. Il est gaulois, il a des droits, pour lui, il y a des lois. Là où j'habite maintenant, ça craint, il y a toujours l'autre pour nous faire chier. Mais il y a plus de gamins dans la cour, plus de malinqués, plus de bazins. Elle est pas drôle, mon histoire, elle est même triste, mais elle est authentique. Et j'ai pas été la chercher bien loin, tout juste là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Vous écoutiez Qual avec Là où j'habite. La perle de ce soir, c'est le duo Gris Cornac de passage au bar du quai à 21h30, entrée libre. On termine avec l'éternel Bulle Sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Un mardi soir sur deux, ta gueule Coubertin nous parle d'exercices sportifs. Hier, Charlotte a causé tennis.
Et ouais, pendant que les handballeurs, comme à leur habitude, s'illustrent dans leur sport, se battent et deviennent de plus en plus forts à chaque match, faisant de nous, fans de hand et même fans de sport tout court, des supporters accomplis, fiers d'être français, eh bien il y a le tennis. Ouais, le tennis français. Alors on vient déjà de vous parler de la combativité de l'équipe de France de handball et du respect qu'elle mérite. Être fan de hand, c'est d'autant plus gratifiant de quand on voit que le sport que l'on aime est aussi bien représenté. Alors, vous me voyez sans doute venir, mais vous n'y êtes pas. Enfin, pas tant que ça. J'aime le tennis. Si vraiment, je vous assure, j'adore ce sport. J'adore voir de bons joueurs se battre jusqu'au bout et ne rien lâcher. J'adore cette petite balle jaune qui va de gauche à droite et de droite à gauche. J'adore cette notion de face à face que nous inculque le tennis, cette notion de respect aussi. Et j'adore voir un bon match avec de grands joueurs où le suspense est au rendez-vous. Mais contrairement au hand, c'est dur de défendre ce sport en tant que Français.
Vous pouvez réécouter la totalité de Ta Gueule Coubertin sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez une rediffusion de Pat Panic, l'émission geek de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. Nous recevrons le collectif d'Égal à Égal en amont de la 4e édition de leur festival qui se tiendra samedi. Merci à Maëlle pour la réalisation, à Clément et à Thomas pour la co-préparation de l'émission. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.